Pose ta tête.
Pose ta tête, l'émission qui laisse passer la lumière.
La lumière.
Pose ta tête, c'est l'émission
ta tête.
L'émission qui laisse passer la lumière.
Pose ta tête,
c'est l'émission qui laisse passer la lumière.
Et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Pose ta tête, c'est la 9e émission. On va parler des traitements. Alors, c'est un sujet hyper important dans la question de la santé mentale et pourtant, on en parle assez peu. Aujourd'hui, on va recevoir pas mal de gens, dont une infirmière du Centre médico-psychologique de Vendôme et puis le docteur Vukasovic qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour docteur.
Bonjour.
Et du coup, j'en profite pour saluer tout le monde. Salut Sophie.
Salut.
Salut Félix.
Salut.
Salut James.
Bonjour les gens.
Et salut Laurent.
Bonjour, bonjour.
Alors, on commence tout de suite avec la rubrique de Félix. Qu'est-ce qu'on bouge ?
Qu'est-ce qu'on bouge ? Qu'est-ce qu'on bouge ? Qu'est-ce qu'on bouge ? Qu'est-ce qu'on bouge ?
Cette année, en parallèle de son marché de Noël qui aura lieu le 6 décembre, l'association ALVE propose un Noël solidaire. La vente de sapins du 6 décembre au 24 décembre 2025. La vente aura lieu du mardi, mercredi, vendredi de 10h30 à 16h30, le jeudi de 12h30 à 16h30. Des sapins produits dans le Vendômois. La vente se fera sur réservation au 06 95 28 92 36 ou par mail saj41@alve.fr. Les sapins sont préparés et vendus par les personnes accueillies au profit des activités du service d'accueil de jour de l'association. J'en profite aussi pour vous parler de la nuit givrée. Rendez-vous au Faubourg Chartrain, au niveau de l'ancien théâtre, pour le départ de la nuit givrée qui aura lieu le 19 décembre 2025 à partir de 18h30, en musique et en lumière, afin d'y suivre la joyeuse parade jusqu'à la patinoire.
Merci. Super. Félix.
Et on continue avec la rubrique court-circuit.
Court-circuit, le circuit court des artistes du Vendômois.
J'écris pour faire plaisir à beaucoup, pour m'emmerder le cousin, ça, d'accord, mais c'est la même chose, c'est ce que j'ai de mieux à faire.
Court-circuit. Alors aujourd'hui dans court-circuit, j'avais envie de vous parler d'un groupe qui s'appelle Geysir. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
Jamais entendu parler.
C'est quoi comme
Alors c'est un groupe un peu électro. C'est un groupe qui tourne pas mal dans le coin puisque c'est un groupe qui vient de Thoré-la-Rochette, donc tout près d'ici. Et du coup, c'est un... alors j'ai pas voulu les embêter en leur redemandant une énième interview parce qu'ils en ont fait déjà beaucoup sur Studio Zef. Donc du coup, je vous propose d'écouter une interview qui a été réalisée par Maxime. Pour le festival Folie Art à Montoire, c'était en juin. On écoute son interview.
D'accord.
Votre musique, si vous deviez la caractériser en quelques mots.
Pop électronique.
Pop électronique. Geysir, pourquoi ce choix comme nom de groupe ?
Eh bien, c'est un jour où il a fallu trouver un nom, forcément, parce qu'on faisait de la musique sans nom. Et on nous a proposé un premier concert et donc il fallait forcément trouver un nom. Et il se trouve que moi je me trouvais dans un lieu qui s'appelle Geysir en Islande à ce moment-là. Et par rapport à la musique qu'on faisait, un petit peu atmosphérique, planante de l'époque instrumentale, j'ai proposé à Marie si ça lui convenait et puis on est parti sur ce nom-là. Voilà.
Ok, une belle anecdote. Vous rajoutez beaucoup de sons après enregistrement ?
Oui, il y a des arrangements. Si c'est ça, peut-être tu veux parler des arrangements. En effet, oui, on peut rajouter... qu'est-ce qu'on a rajouté ? On a demandé aussi à des amis de participer. On a un ami qui a mis sa voix sur un de nos morceaux. On a aussi après... on a un petit studio, en fait, là où on habite, à Thoré-la-Rochette, à côté d'ici. Ouais. Où on a quelques vieux synthétiseurs qu'on n'amène pas forcément sur les concerts avec nous, mais qu'on aime bien utiliser pour l'enregistrer. Et du coup, après, qu'on s'amuse à sampler et à triturer, et puis à rebalancer pour les lives aussi, c'est ce qu'on fait.
À travers vos musiques, est-ce que vous essayez de faire passer un message à vos auditeurs, si on peut dire ça comme ça, ou votre public ?
Pas proprement dit, un message particulier.
Ouais.
Non, parce que déjà, on a du mal déjà à nous dire ce qu'on pense. Et on utilise la musique pour ça, pour un petit peu aussi donner nos émotions à travers un langage universel qui est la musique. Et peut-être que ça peut parler à d'autres aussi, donc c'est voilà, sans forcément mettre des mots très explicites, mais c'est un peu le moyen qu'on a trouvé, en tout cas nous, pour faire passer un message plutôt harmonieux, ouais. qu'on essaye quoi en tout cas. Voilà.
Donc vous, vous êtes plutôt habitué à vous produire sur des petits festivals locaux comme ici à Folliart ou plutôt sur des grandes scènes
Tour du monde, quoi.
Ouais, voilà.
Non, on est plutôt un petit groupe régional, je dirais. Ouais. Après, on a quand même deux albums et un EP. On existe depuis 2012. On a commencé en fait à faire un ciné-concert. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. On a refait en fait la musique d'un film en live. C'était un peu notre tout premier projet. On a fait il y a plusieurs années. Et on a fait un EP avec ça. On a enregistré quatre titres. Donc c'était essentiellement instrumental. Et on a pu faire un petit peu ça en France. Et puis on a sorti un premier album après. On a pu voyager. On a fait les premières parties d'Yann Tiersen en 2019. Où là on a pu voir l'Allemagne, on a pu voir l'Italie, on a pu voir plusieurs contrées sympathiques. Donc on s'est un petit peu exporté du territoire vendômois.
Ouais.
Avec des grandes salles, qui c'était chouette. Ça nous a permis de jouer devant plusieurs milliers de personnes, j'ai envie de dire. Donc c'était cool. Mais c'est vrai qu'après, on fait des scènes locales
dans
la région, des petits festivals ou dans les salles de musique actuelles de la région.
Ouais.
Voilà, un petit parcours local.
Ouais.
Et du coup, on écoute leur titre Open Bay de leur dernier album sorti l'année dernière.
Les bonheurs de Sophie.
Les bonheurs de Sophie.
Bonjour, bienvenue dans ma rubrique lecture. Alors, pour commencer, je vais vous présenter une histoire contemporaine en bande dessinée. Le titre est « L'Oasis » de Simon Hureau aux éditions d'Argo. Grâce à ce livre, nous apprenons comment l'auteur entreprend, avec sa famille, de faire d'un espace vert désert un jardin où l'homme et la nature coopèrent et ainsi renaît la biodiversité et la beauté de celle-ci. Par ses connaissances et son savoir, Simon Hureau nous informe ici comment révéler la nature. Y est évoqué par exemple le terme « refuge LPO », qui est la Ligue pour la protection des oiseaux. Il s'essaie même à l'entomologie, la science qui étudie les insectes. Donc c'est un travail de terrain. Il observe, il récolte, il identifie, il inventorie les différents insectes présents dans un milieu. Plus rigolo, on y apprend que l'orvée n'est pas un serpent, mais un lézard sans pattes. Et il y a des informations sur les différentes espèces de papillons, oiseaux, araignées, insectes en tout genre, et même sur les escargots et les limaces. De plus, le broyeur pour faire du compost est génial. Bref, c'est un livre à tendance bien écologique et sympa, comme tout. Je vous le recommande vivement. Le second livre n'a rien à voir avec l'écologie, quoique. Voici le premier guide pratique pour mieux vivre avec un trouble obsessionnel compulsif. Il s'appelle « Je ne peux pas m'arrêter de laver, vérifier, compter, mieux vivre avec un TOC » du docteur Alain Sautreau, médecin, psychiatre et spécialiste du trouble obsessionnel compulsif, aux éditions Odile Jacob. Alors, pour s'y retrouver, le guide comprend trois parties. La première est le TOC « Comprendre pour mieux agir ». La deuxième, « Les clés du changement ». Et enfin, la troisième et dernière partie, « Mieux vivre avec un TOC ». Alors, dans chaque partie, il y a des chapitres qui traitent de toutes les situations, de toutes les solutions, de divers témoignages et exemples chez les personnes souffrant de TOC. C'est un livre très intéressant pour les personnes concernées ou leur entourage. Il est très informatif et accessible. Et voici ma rubrique « Les bonheurs de Sophie » terminée. Et oui, dommage, à très vite.
Merci.
Et maintenant, la deuxième partie de l'émission, la santé mentale n'est pas un gros mot.
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 Et maintenant, autour de la rubrique de James sur la tête de ton réseau. Vas-y, James.
Bienvenue sur la tête de ton réseau. Sur la tête de ton réseau.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci à toi, Honorine, de ta présence. Honorine, qui est infirmière au CMP à Vendôme. Et si tu veux te présenter.
Oui, ben, Honorine, au CMP à Vendôme depuis quelques mois, voire 2 ans. Voilà, donc ma mission est d'accueillir des patients sur indication du médecin traitant, de la famille, des patients eux-mêmes qui viennent tout seuls quand ils rencontrent une difficulté d'ordre mental, bien sûr, voilà, et qui demandent de l'aide.
J'aurais voulu savoir, pouvez-vous définir le mot stabilité concernant des traitements psy ?
Des traitements ou sur la stabilisation du patient ?
Stabilisation.
Stabilisation du patient.
Oui.
Alors, c'est quelque chose ça se définit par une disparition des symptômes au bout de quelques semaines, voire de quelques mois. Mais ceci s'observe justement par une bonne observance du traitement de la part du patient. Bien sûr, avec une alliance thérapeutique qui reste consolidée justement parce que on sera en relation avec lui tout le temps, à distance ou même avec des consultations régulières. Ça s'observe beaucoup justement sur le comportement du patient, de comment il est. On consolide cette stabilisation avec des prises en charge, en accord toujours avec lui et en fonction bien sûr de ses facteurs environnementaux. Hein, c'est-à-dire sa famille, sa vie sociale, de comment il est, etc. etc.
En quelqu'un, voilà. Vous le lâchez, en fait. Il y a tout le long du traitement, en fait, il y a un suivi.
Il y a un suivi, absolument. Mmh. Voilà. Mais voilà, il faut qu'il y ait vraiment cette alliance thérapeutique qui soit vraiment présente et qu'on puisse observer, hein, ou à distance ou en présentiel.
D'accord.
Voilà.
J'ai une petite question.
Oui.
Est-ce que ça vous arrive qu'il y ait des refus, qu'une personne se présente et qui refuse, malgré votre aide, les aides thérapeutiques et tout et tout?
Bien sûr, ça arrive fréquemment. Et là, effectivement, ça veut dire qu'il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus rien, hein, qui nous oblige à le garder, ce patient. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Hein.
D'accord.
Voilà.
C'est comme quelqu'un, en fait, qui arrête son traitement.
Bien sûr. Quelqu'un qui arrête son traitement, même s'il y a eu de l'éducation thérapeutique en amont, il l'arrête pour une... Certainement qu'il y a... une raison, hein. Mais bon, il l'arrête. Mais on sait qu'automatiquement, si c'est vraiment quelqu'un qui est incurable, il y aura forcément, à un moment donné, une décompensation. Donc, il reviendra forcément vers nous. Voilà.
Est-il possible de faire une thérapie sans traitement?
Alors, une thérapie sans traitement, ben, ça dépend des cas. Hein. Si vous parlez de traitement médicamenteux, bien évidemment, c'est tout à fait possible. Hein. C'est possible par, justement, des thérapies alternatives, hein. Donc, psychothérapie, voire des groupes de parole, des entretiens infirmiers, hein, ce que je pratique souvent d'ailleurs. Et donc, beaucoup de thérapies peuvent aider les patients justement à améliorer les symptômes, hein, et leur qualité de vie. Donc, avec la parole, en permettant aux patients de trouver lui-même ses solutions. Voilà. Avec ses ressources propres.
La parole libère, quoi, en fait.
Absolument. Voilà. Et là aussi, hein, faut une certaine alliance avec le patient pour que justement il puisse
une
alliance thérapeutique.
Bon, d'accord.
Voilà.
D'accord. J'ai une petite question. Par exemple, quand c'est l'hospitalisation du patient,
oui.
Est-ce qu'il y a obligatoirement un traitement où le patient, tout en étant hospitalisé, fait un sevrage en disant moi je veux pas de médicaments, je veux me faire soigner, mais même si je suis hospitalisé, je veux pas de traitement.
C'est très compliqué d'observer cela. Souvent, quand les patients ils sont hospitalisés, c'est justement pour instaurer un traitement, voire un petit peu, le remettre un petit peu sur les rails, mais ça reste exceptionnel quand le patient il est chez nous sans traitement.
D'accord.
Hein. Mais effectivement, un patient après qui est dans le refus, hein, peut toujours avoir une sortie contre avis médical. Alors après, il y a d'autres, hein, il y a plusieurs hospitalisations. Hein. Il y a les hospitalisations qu'on nommait avant hospitalisation d'office. Hein, donc maintenant, on va vous parler de SRPRE, SDRE, HO, etc. Donc c'est souvent une hospitalisation contrainte, hein, avec des soins contraints, hein, soit avec un placement par un tiers ou par un procureur, donc par un représentant de l'État en l'occurrence. Ces patients-là, bon ben voilà, il y a ce qu'on appelle des contraintes, et donc on est quand même bien obligé de les garder, de les mettre sur pied, etc. Voilà, c'est une obligation.
La thérapie peut être suffisante lorsqu'on a une pathologie?
Alors, ça dépend du diagnostic, hein. C'est toujours pareil. Hein. Il faut vraiment cette alliance thérapeutique, hein, toujours, hein, qui revient. C'est vraiment fondamental, hein, pour qu'un patient puisse être soigné. Et donc, après, en fonction du profil du patient, hein, s'il est curable ou incurable, c'est possible, hein, c'est possible. Autrement, après une consultation au niveau du psychiatre, il y a toujours une orientation. Hein, ça peut être donc évidemment une orientation sous médicaments, de courte ou de longue durée. Ça peut être une orientation avec des prises en charge alternatives en CATTP, c'est-à-dire en centre d'accueillement thérapeutique et partiel. Ça peut être en HDJ aussi, donc en hôpital de jour. Ça peut être aussi en institution, hein. De façon courte, avec des séjours de rupture si le patient est en institution. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle quand même des suivis avec des interventions auprès de la famille, avec l'éducation thérapeutique, des aides à domicile, des intervenants sociaux, etc., qui peut améliorer et amener le patient à consolider son soin, quoi. Voilà. Sa prise en charge.
Merci, vous avez été super.
Bon, bah, très bien, merci.
Ouais, merci vraiment. Beaucoup.
On écoute maintenant Laurent qui reçoit le docteur Vukasovic.
Bonjour docteur, bienvenue à Pose ta tête. Alors, je vais vous poser quelques petites questions sur les traitements. Alors, est-ce qu'un traitement pris sur le long terme peut avoir des conséquences nuisibles sur la santé physique ou psychique, et peut-on remédier à ce problème?
Alors, je pense que déjà, quand on parle de traitement en psychiatrie, il faudrait déjà remettre les choses dans leur contexte. Il existe plusieurs types de traitements en psychiatrie. On a les antidépresseurs, les traitements thymorégulateurs, donc qui sont plutôt à donner dans le cadre du trouble bipolaire, les traitements antipsychotiques et les anxiolytiques. Après, il y en a d'autres, mais ceux-là, c'est les principaux. Et donc, ces traitements, à la base, ils sont donnés pour la dépression, le trouble bipolaire, le trouble psychotique. Mais en vrai, en psychiatrie, on utilise des fois certains traitements pour une autre pathologie. Par exemple, on peut donner un traitement antipsychotique aussi pour un trouble anxieux. Ça peut aider.
D'accord.
Donc, on adapte les traitements plus ou moins en fonction du patient. Donc maintenant, la question, c'était est-ce qu'un traitement pris au long terme peut avoir des conséquences ? Donc la réponse est oui, ça peut avoir des conséquences. Les conséquences, c'est donc essentiellement liées aux effets secondaires des traitements, parce qu'aucun traitement n'est dénué d'effets secondaires. Parmi les effets secondaires possibles, on peut avoir une prise de poids qui peut apporter des problèmes cardiovasculaires et du diabète. C'est notamment le cas souvent avec les antipsychotiques qui peuvent faire prendre du poids. Il y a aussi des troubles du métabolisme qui peuvent exister, avec une augmentation du cholestérol, de la glycémie, des problèmes au niveau digestif, des problèmes sexuels. C'est un souci aussi, souvent la baisse de la libido, voire les troubles de l'impuissance, dont beaucoup de patients se plaignent et qui est souvent un facteur aussi d'arrêt des traitements. Il peut y avoir des troubles de sommeil, il peut y avoir... les traitements sont filtrés, il faut savoir que les traitements sont filtrés par le foie et le rein, ou le rein. Donc ça peut aussi causer des problèmes sur ces organes-là, sur du long terme, et certains traitements peuvent aussi avoir un impact sur la thyroïde. Notamment, c'est le cas du lithium qui est pris pour le trouble bipolaire. Comme tout traitement, le risque, c'est aussi les interactions médicamenteuses si le patient est amené à prendre un autre traitement à un moment donné. Après, on a aussi des conséquences qui sont plutôt psychologiques, notamment la dépendance qui existe avec les traitements pris en psychiatrie, notamment tout ce qui est benzodiazépine. Et puis, peut y aussi y avoir des troubles cognitifs qui peuvent se créer avec les traitements, donc des troubles de mémoire, de concentration. Encore une fois, y a plusieurs traitements qui peuvent donner ça, mais la prise de benzodiazépine au long cours, c'est un souci pour ça. Et une autre problématique qui n'est pas vraiment un effet secondaire, mais c'est aussi la stigmatisation. C'est-à-dire qu'il y a... La société actuelle, elle considère, elle a tendance à considérer que, en fin de compte, avoir une maladie mentale, c'est être faible. Et donc, il y a des patients pour qui c'est problématique de prendre un traitement au long cours, parce qu'ils ont l'impression qu'on va considérer qu'ils sont moins bien que les autres parce qu'ils prennent un traitement.
Ouais, ils sont un peu jugés, quoi.
Ils peuvent se sentir jugés. Et pour eux, ça peut être dur de prendre le traitement, même s'ils en ont besoin. Ils ont l'impression que ça fait d'eux quelqu'un de pas assez fort pour s'en sortir autrement, alors qu'en vrai, ils ont une maladie et qu'ils ont besoin d'un médicament pour les aider. Après, on parle des problèmes du traitement long cours, mais il faut savoir quand même qu'il y a aussi des bénéfices pour le traitement long cours. Il n'y a pas que des problèmes. Ouais. Si on les donne, c'est parce qu'il y a des bénéfices. Notamment, les bénéfices, c'est que ça permet de stabiliser les symptômes et de prévenir les rechutes chez les patients qui ont des maladies chroniques. Parce que tout à l'heure, on en parlait, le trouble bipolaire, la schizophrénie, c'est des maladies chroniques. Actuellement, on n'en guérit pas, mais par contre, on se stabilise avec un traitement. Donc, si le traitement est arrêté, le risque, c'est la rechute et les complications qui vont avec. Ça permet aussi d'améliorer la qualité de vie, donc en diminuant les symptômes de la maladie. Et puis, ça peut prévenir des complications en lien avec la maladie, comme les hospitalisations ou les problèmes sociaux. Et puis, ça diminue aussi le risque de suicide pour certaines maladies qui sont à fort risque de suicide. Mmh. Après, comment on peut remédier, vous me demandiez, au problème des traitements pris au long cours et des effets secondaires ? C'est justement d'évaluer cette balance bénéfice-risque. C'est-à-dire voir à chaque fois qu'on prescrit un traitement, est-ce qu'il y a plus d'effets secondaires ou est-ce qu'il y a plus de bénéfices au traitement ? Le but, c'est de réduire au maximum le traitement pour trouver la dose minimale efficace avec le moins d'effets secondaires possible.
Et quels sont les facteurs, les signes de quand ça ne va pas, quand vous voyez la personne?
Ça, justement, c'est tout notre travail. C'est ce que j'allais y venir. Il faut un suivi médical régulier pour pouvoir rechercher en fait, les effets secondaires. Donc, ça passe par toute une série de questions pour savoir si le traitement est bien toléré. Ça peut aussi passer par des bilans sanguins. Les patients qui prennent par exemple du lithium ou de la clozapine, ils sont habitués, ils ont des bilans très réguliers parce que c'est comme ça qu'on peut voir qu'il y a un problème au niveau sanguin, au niveau métabolique. Et dans ces cas-là, on prend les mesures qu'il faut. Soit on arrête le traitement s'il faut, soit on met un autre traitement en place pour pouvoir pallier un problème lié au traitement si le traitement est bien toléré, et mal toléré, mais qu'on en a besoin quand même. Le but, c'est toujours d'ajuster les choses au maximum. S'il faut, on change de traitement. S'il faut, on réévalue. On peut aussi proposer des thérapies alternatives, c'est-à-dire que pour un patient, par exemple, qui présente une dépression, on veut lui arrêter son traitement pour limiter les rechutes. On peut lui conseiller de faire une psychothérapie pour limiter le fait d'avoir recours une nouvelle fois à un traitement, de faire de la relaxation, de l'exercice. Il y a plein de choses à mettre en place pour limiter au maximum les traitements. Le but, globalement, c'est d'épurer au maximum l'ordonnance. On évite, par exemple, les benzodiazépines, que je vous disais, qui ont beaucoup d'effets secondaires sur du long cours. On évite de les mettre au long cours le maximum possible.
D'accord.
Et puis, c'est important aussi de faire de l'éducation thérapeutique auprès du patient, d'apprendre au patient à mieux connaître sa maladie, à mieux connaître son traitement, à reconnaître les effets secondaires et les signes de gravité, en fait, qui pourraient faire, les signes d'alerte, qui pourraient faire dire, là, mon traitement, il y a un souci, il faut que j'appelle mon spécialiste ou il faut que je me rende aux urgences.
D'accord. Est-ce que la prise d'un traitement, quel qu'elle soit, peut être prise sans l'avis d'un professionnel ? Quels sont les risques ?
Alors, vous attendez à la réponse, mais c'est non.
Oui, je m'en doutais un petit peu, mais je voulais quand même vous poser la question pour être sûr.
Non, il est fortement déconseillé de prendre un traitement, quel qu'il soit, sans l'avis d'un professionnel, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que pour pouvoir prendre un traitement, il faut poser un diagnostic. Que poser un diagnostic pour soi-même, ce n'est pas facile, et encore moins en psychiatrie. Pour savoir quel traitement il faut prendre, il faut déjà savoir ce qu'on traite. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des effets secondaires en traitement, il peut y en avoir des graves. Notamment, par exemple, en cas d'allergie, ça peut être catastrophique. Les traitements, ils ont des interactions médicamenteuses, donc on ne peut pas prendre n'importe quel traitement avec n'importe quel traitement. C'est quand même le but aussi, quand on évalue la prise d'un traitement chez un patient, on évalue dans son ensemble et en fonction de ses autres pathologies. Les traitements, ils peuvent aussi aggraver les symptômes psychiatriques. Par exemple, normalement, quelqu'un qui a un trouble bipolaire, il ne doit pas prendre des antidépresseurs comme ça. On peut des fois en prescrire, mais s'il en prend...
Il faut l'avis du médecin, quoi.
Il faut l'avis du médecin, parce que le risque, c'est de décompenser la pathologie et que ça soit pire. Après, comme on l'a dit, il peut y avoir des dépendances au traitement. D'ailleurs, il y a du trafic avec certains médicaments, notamment, encore une fois, les benzodiazépines. Il peut y avoir des surdosages si on se dose soi-même. Ça peut être mortel de prendre trop de traitements.
C'est dangereux quand même.
Et puis, ça peut aussi masquer des symptômes. Si on masque les symptômes, on retarde le diagnostic et on peut moins trouver le vrai problème. Donc, il faut dans tous les cas consulter un professionnel pour pouvoir prendre un traitement.
Ok. Peut-on à ce jour considérer que les traitements ont progressé par rapport aux anciens traitements ? Est-ce qu'il y a des avancées, des nouvelles molécules ?
Alors là, je ne vais pas être la plus à même forcément à vous répondre à cette question, parce que moi, je ne suis pas trop dans la recherche. Mais oui, il y a des études qui sont faites très régulièrement. Le but de ces études, c'est d'essayer en fait, de créer des traitements les plus personnalisés possibles pour les patients. Notamment, il y a des études de neuroimagerie où on essaie de regarder un petit peu ce qui se passe dans la tête des patients pour essayer de trouver quelles zones sont touchées par les pathologies.
C'est quoi comme genre d'examen ?
Ça peut être des IRM cérébrales, ça peut être des EEG, des IRM fonctionnels. Donc c'est des IRM.
Et on peut voir
des
si... questions.
Alors c'est en étude tout ça.
C'est en étude.
Il y a, pour l'instant, il n'y a pas une étude où on dit ce point-là c'est schizophrène ou ce point-là c'est. Mais en fait, c'est quand même prometteur parce qu'en recoupant plusieurs imageries, on pourrait découvrir que telle zone ou telle zone. Et marqué par une maladie. Et donc, on pourrait donner un traitement qui marcherait mieux là-dessus. Après, au niveau nouvelles molécules actuellement, il y a quelques molécules comme l'esquétamine, par exemple. C'est un dérivé de kétamine qui peut être prescrit dans les troubles dépressifs. Il y a certaines thérapies qui ont été mises en place, qui sont à l'étude aussi, qui utiliseraient des psychédéliques, des champignons hallucinogènes, c'est à l'étude en ce moment. Des thérapies assez récentes aussi, c'est les thérapies de stimulation cérébrale, la RTMS, qui sont utilisées pour traiter certains troubles anxieux, le trouble bipolaire. Et puis, il y a une autre avancée qui n'est pas vraiment thérapeutique, mais tout ce qui est thérapie en ligne, en fait, ça permet quand même, bah, pour les déserts médicaux comme les nôtres, par exemple, bah, qu'un plus grand nombre ait accès à des soins en pouvant remédier à de la téléconsultation, par exemple, avec des spécialistes qui sont dans d'autres secteurs.
D'accord, je crois qu'on veut vous poser une question.
Oui, docteur, justement, on parlait de quétiapine. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de ruptures à ce niveau-là.
Oui.
Dans les pharmacies, donc on dit que c'est les labos. Enfin, pourquoi tout ça, en fait?
Alors, cette année, il y a eu beaucoup de ruptures de traitement. Ça a été très compliqué. Hein. Et puis, on n'a pas eu que la quétiapine. Il y a eu la quétiapine, il y a eu la vanaflaxine, plusieurs antidépresseurs qui ont été en rupture, la vanaflaxine, la sertraline, et même le lithium qui a commencé à être en rupture. Donc, ça a été très, très compliqué. Après, c'est un peu compliqué de répondre à la question. Moi-même, je n'ai pas la réponse. D'après ce que j'ai compris, il y a des labos qui n'ont pas pu fournir suffisamment tôt, suffisamment vite. Et on s'est retrouvé avec des ruptures de traitement et ça a rendu les choses très compliquées pour beaucoup de patients.
Ah, une petite question.
Je voudrais savoir, en combien de temps serez-vous en mesure de dire que la médication est efficace?
Alors, c'est très variable d'un traitement à l'autre. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, sur les antidépresseurs, il faut attendre au moins 3 semaines, 1 mois avant d'avoir une efficacité. Donc, c'est long. Et avant ça, on ne peut pas vraiment dire si on est efficace. On peut essayer de soulager le patient par d'autres manières en attendant. Mais il faut ce délai-là. Après, sur les autres molécules, bah, c'est variable aussi d'une molécule à l'autre. Et puis, selon la vitesse à laquelle on peut mettre en place le traitement. Et certains traitements, on est obligé d'y aller progressivement, notamment pour surveiller l'apparition d'effets secondaires. Mais globalement, on est de l'ordre de quelques jours, quelques heures même pour les benzodiazépines. C'est assez efficace rapidement. Alors, normalement, non. On n'est pas censé attendre quelques années avant qu'il y ait une efficacité. Normalement, on n'est pas censé. Sinon, c'est que le traitement ne fonctionne pas. Au bout de quelques années, c'est qu'il y a un souci. Mais normalement, ça va de quelques heures pour les benzodiazépines, à quelques jours pour d'autres traitements, à quelques semaines pour les antidépresseurs, pour savoir si ça fonctionne. Faut-il encore trouver la bonne posologie ?
J'ai une question aussi pour vous, docteur. Est-ce que quand on va chez le psychiatre, on ressort forcément avec des médicaments ? Ou est-ce que vous prescrivez... je sais que tout à l'heure, vous avez parlé de thérapie. Est-ce que c'est possible de prescrire du sport ou, je sais pas, des ateliers thérapeutiques, des choses comme ça ?
Alors, non, déjà, on ne ressort pas forcément avec une ordonnance. Après, quand on va voir le psychiatre, généralement, c'est quand même qu'on est adressé par son généraliste et donc que le médecin traitant a considéré qu'il y avait un besoin d'une évaluation thérapeutique. Après, moi, j'ai quelques patients qui n'ont pas du tout de traitement parce qu'ils, notamment, ils n'en veulent pas ou qu'ils n'en ont pas besoin. Mais même quand on prescrit un traitement, on peut prescrire d'autres choses. Alors après, je dis prescrire, c'est pas vraiment une prescription parce que souvent, il faut que le patient soit d'accord. Mais par exemple, moi, j'envoie beaucoup de patients à la maison sport santé parce que c'est une bonne activité pour eux, physique et mentale. Je prescris, entre guillemets, des ateliers. Je dis aux gens d'aller à tel ou tel endroit. Je dis aux gens d'aller au GEM, oui. Notamment, aussi. C'est pas une prescription, mais ça fait aussi partie des choses qui les aident, en fait, au quotidien, je pense. Et puis après, des fois, c'est oui, leur prescrire, entre guillemets, du loisir, du sport, du bien-être, de la sophrologie, de la relaxation. La psychiatrie, c'est vraiment un ensemble de choses et ça va pas que par le traitement. Mmh. Et bien sûr, j'envoie aussi beaucoup de patients vers les psychologues ou les infirmiers pour un suivi pluriprofessionnel. Mmh.
Merci beaucoup, docteur.
Merci beaucoup.
Merci, docteur. Et c'est ainsi que s'achève l'émission numéro 9 de Pose ta tête sur les traitements. On espère que vous avez appris des choses encore. On vous rappelle que l'émission est diffusée sur Studio ZEF tous les lundis à 13h, fréquence 91.7 à Vendôme et 91.1 à Blois, et que vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast sur le site de Studio ZEF.
Écoutez-nous.
On vous dit au revoir et n'oubliez pas de poser votre tête.
Ciao,
salut,
ciao.
Au revoir, docteur.
Pose ta tête.
Pose ta tête, l'émission qui laisse passer la lumière.
Pose ta tête, c'est l'émission
qui laisse passer la lumière. Qui laisse passer la lumière.
Pose ta tête,
c'est l'émission qui laisse passer la lumière.